Et bienvenue dans le Labomatique, votre émission de vulgarisation scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Cette semaine, j'ai rencontré Erwan Cadoré, doctorant à l'université de Rennes 2 et également à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Passionné de cinéma, il a soutenu sa thèse en novembre 2011. Et celle-ci porte sur les manifestations oniriques dans le cinéma de Terry Gilliam. Terry Gilliam est le réalisateur des célèbres films Las Vegas Parano, Brasil, L'Armée des Douze Singes, Monty Python et bien d'autres. Erwan Cadoré, notre doctorant, s'est intéressé aux scènes de rêve, aux scènes d'hallucination, aux créations mentales et aux projections surnaturelles qui font la particularité des films du réalisateur. Erwan Cadoré, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez soutenu votre thèse en novembre dernier.
Oui, 21.
Et donc cette thèse, elle portait sur Terry Gilliam, donc, qui est un réalisateur de films. Alors est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ce réalisateur ?
Oui, alors rapidement, Terry Gilliam, c'est un Américain qui est installé aux États-Unis depuis une trentaine d'années. C'est quelqu'un qui est surtout connu pour avoir fait partie de la troupe des Monty Python, du Monty Python Flying Circus dans les années 60, donc célèbre troupe de comiques télévisés et télévisuels de la télévision britannique. Et puis à partir des années 70, il a fait une carrière solo, où il n'a pas tourné 40 millions de films, il en a tourné une petite douzaine. Et les films sur lesquels je travaillais, moi très exactement, puisque ma thèse portait donc sur les manifestations oniriques dans certains films de Terry Gilliam, et donc je travaillais sur des films comme Brasil, Fisher King, L'Armée des Douze Singes, qui est sans doute son plus connu, Las Vegas Parano, et puis deux autres films moins connus aujourd'hui, donc Thaïlande et L'Imaginarium du Docteur Parnassus, qui sont ses dernières sorties en salle.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce réalisateur ? Est-ce que vous étiez fan, vous, de votre côté, ou est-ce que c'est vraiment le hasard ?
Oui, alors non, c'est pas du tout le hasard en fait, c'est que ça naît de quelque chose d'assez long et d'assez tortueux. J'ai découvert Terry Gilliam il y a très longtemps de ça, en 94, quand j'ai regardé Brasil pour la première fois en version originale sur Arte. Et ça faisait partie des premiers films que j'ai vus en version originale avec des classiques de Hitchcock, de Citizen Kane, mais c'était parmi les premières choses un peu, on va dire, modernes que je regardais. C'est un film qui m'a plutôt transporté, notamment parce que c'est un film qui est vraiment un film anti-hollywoodien à plein d'égards. Donc c'est un film qui est très intéressant justement parce que c'est un film qui utilise les méthodes du cinéma hollywoodien mais pour mieux en contester l'idéologie. Et ça m'a un petit peu poussé à aller voir. J'ai vu le Baron de Munchausen aussi à la télé à la même période, ça m'a beaucoup plu. Et puis après j'ai commencé à voir les films de Terry Gilliam au cinéma à partir de L'Armée des Douze Singes, et donc j'ai jamais arrêté depuis. Et quand j'ai voulu faire une thèse, j'avais travaillé avant plus sur les cinémas d'Asie. Quand j'ai voulu faire une thèse, la question de la langue et du barrage de la langue s'est posée, puisque je ne parle pas chinois ni japonais. Par contre, j'arrive à lire à peu près l'anglais, donc, et à le comprendre également à peu près. Donc ça m'a poussé vers les milieux anglo-saxons. Et là, je me suis dit, qui n'a pas été étudié, qui mériterait d'être étudié à la fac? Et j'ai trouvé Terry Gilliam, mais il s'est avéré que ça n'a pas été totalement inutile, je pense.
En amont, vous aviez fait quoi comme étude exactement?
Alors, avant ma thèse de Cinoche, j'ai suivi un parcours un peu tortueux. J'ai commencé par l'histoire de l'art. Jusqu'en maîtrise, ça s'est moyennement bien passé, donc j'ai préféré anticiper et bifurquer directement vers quelque chose d'autre, donc j'ai trouvé une équivalence en licence art du spectacle. En fait, il s'est révélé que le premier choix n'était pas forcément le meilleur, mais que le deuxième choix était plus intéressant, et ça s'est beaucoup beaucoup mieux passé en maîtrise, en DEA, puisque moi j'étais dans l'ancien système, et puis après en thèse, là aussi ça s'est plutôt bien passé.
Alors quelles sont les particularités des films de Terry Gilliam ?
La question de l'onirisme et de l'imaginaire, c'est deux questions qui sont très très importantes pour Terry Gilliam, parce qu'il travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la fantaisie, enfin le merveilleux, que ce soit un merveilleux surnaturel ou un merveilleux plus psychologique, plus cérébral. Il y a ça d'une part, ce rapport à l'imaginaire qui est un rapport très compliqué, sur lequel je vais pas m'étendre, mais qui est un rapport à la fois très enthousiaste et en même temps très pessimiste sur la capacité de l'imaginaire à transformer le monde, sur notre rapport au réel, sur l'adversité, le poids que le réel fait peser sur nous et comment est-ce qu'on qu'on arrive à s'en sortir justement par le biais de l'onirisme. Donc ça, c'est beaucoup de questions qui traversent à peu près toute sa filmographie. Sur le plan visuel, la grande caractéristique de son style, c'est que c'est un style très très foisonnant. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'excès, hein, que ça soit dans la mise en scène, dans la façon de filmer, dans le cadrage, mais également c'est quelqu'un qui remplit son cadre, hein, de plein de choses, de plein de détails, de plein de références historiques, artistiques, esthétiques. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui va dans plein de directions. On lui a beaucoup reproché d'être un réalisateur un peu éparpillé. Moi, je trouve au contraire, c'est plutôt quelqu'un, justement, un peu comme certains réalisateurs italiens, hein, comme Fellini. Hein, c'est des gens qui remplissent vraiment leur cadre, qui sont très très généreux avec le spectateur, au risque de se perdre un petit peu. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux que trop que pas assez.
Donc, vous avez travaillé sur les manifestations oniriques dans les films de Terry Gilliam. Alors, qu'est-ce qu'on entend par manifestation onirique?
Alors, moi, j'ai développé un peu ce concept-là en fonction de ce qu'il y avait dans le cinéma de Gilliam. Donc, d'une part, moi, j'ai séparé, j'ai trouvé trois catégories, quoi, on va dire, mais dont je reverrai la formulation si je devais le refaire aujourd'hui, parce que la question de l'onirique, justement, voilà, en termes de définition pure et simple, bon, ça ne correspond pas forcément totalement à ce que j'ai trouvé, mais bon, c'est, on va dire, un terme général qui est assez représentatif. Donc, d'un côté, il y a des rêves. Ce qu'on trouve dans Brésil, dans l'armée des douze singes, où il y a des scènes de rêve, où le personnage connaît des scènes de rêve, voilà, qui influent sur son rapport au réel. Il y a des scènes d'hallucination, donc ça c'est plutôt dans Fisher King, dans Las Vegas Parano, où les hallucinations sont dues à la drogue, et puis dans Thaïlande, là aussi, c'est des hallucinations, mais qui sont appliquées à une petite fille, à l'esprit d'une petite fille. Et puis il y a ce que j'ai appelé, alors là aussi je changerais sans doute le terme si je devais le faire, mais ce que j'appellerais des projections oniriques, c'est-à-dire des créations purement mentales, soit qu'elles soient pas juste des idées qui passent par la tête des personnages et qui sont représentées à l'écran, hein, il y en a deux, trois dans Las Vegas Parano, sinon ça va être, on va dire, des projections véritablement surnaturelles, et là c'est le cas de l'Imaginarium du Docteur Parnassus, qui est un film justement très intéressant, parce qu'il change complètement de type de manifestation par rapport aux manifestations qu'il utilisait avant dans ses autres films, donc il y a vraiment quelque chose de, à la fois une espèce de synthèse de ce qu'il a fait avant, donc dans ses autres films, et notamment sur la question de l'imaginaire, mais il y a aussi une tentative de se renouveler, d'essayer d'ouvrir une autre voie, en fait, voilà, dans la question de la représentation de l'onirisme, du type de manifestation qui est représenté. C'est pour ça qu'à mon avis, l'Imaginarium est un film qui est très intéressant.
L'Imaginarium, c'est son dernier film ?
Son dernier, il est sorti en 2010, avec Heath Ledger, qui est mort en cours du tournage, en fait. Voilà. Donc ça a été assez compliqué, parce qu'ils ont été obligés il a été obligé de remplacer justement Heath Ledger dans les scènes de rêve. Et donc il l'a fait en demandant à des comédiens qu'il connaît de venir participer. Donc les comédiens, bon, c'est pas n'importe qui non plus, hein, puisque c'est Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell. Donc voilà, trois belles gueules du cinéma pour remplacer la quatrième belle gueule. Et justement, là aussi, ça devient assez très intéressant parce que le personnage de Heath Ledger n'est pas un personnage très sympathique dans le film et qu'il y a tout un travail justement sur la beauté physique des acteurs qu'il interprète et la noirceur de son âme. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très intéressant puisque le changement d'acteur, évidemment, c'est le signe aussi de sa duplicité et de sa manipulation, de son goût pour la manipulation des autres et notamment des personnages féminins.
Comment s'est organisé votre travail ? Ça consistait pas qu'à regarder des films ?
Non. Moi, je me suis reposé essentiellement sur des interviews. Moi, c'est pas vraiment une thèse théorique, hein. Donc c'est une thèse qui repose beaucoup plus sur l'analyse des images pures. Voilà, moi, je me suis reposé essentiellement sur les articles, les critiques, les reportages sur les films, les interviews, moins sur des ouvrages théoriques plus généraux. Donc il a fallu que j'aille pas mal à Paris. Donc ça m'a pris pas mal de temps quand même. Hein. Ça m'a pris deux ans et demi, hein, le temps de faire un peu le tour, notamment des articles en anglais, puisque les articles en anglais sont pas forcément très bien répertoriés. En France, c'est difficile, on les trouve pas partout, il n'y a pas une grosse bibliothèque avec tous les articles de Cinoche en anglais, donc il a fallu trouver parfois des chemins un peu détournés, mais voilà, au bout de deux ans et demi, voilà, donc j'avais à peu près terminé mes recherches, après il a fallu trouver un plan. Voilà, le plan a mis un peu de temps aussi, hein, il a fallu du temps il a changé pas mal de fois, ce qu'on fait souvent en thèse, hein, on commence très gros, puis après on réduit au fur et à mesure donc la problématique, et puis après il y a eu la rédaction, et là ça a été une partie qui a été assez compliquée, parce que parler et écrire, c'est deux choses différentes, et là faut vraiment arriver à trouver une technique d'écriture personnelle, et ça c'est pas du tout évident de trouver cette technique-là. Il y en a qui la trouvent très très vite, hein, au début de leur thèse, et d'autres comme moi, je pense, qui jusqu'à la fin vont être dans l'hésitation, essayer plusieurs choses sans que ça fonctionne réellement pour toute la thèse, pour l'ensemble du travail.
Et est-ce que vous avez cherché à rencontrer Terry Gilliam ?
Alors j'ai cherché vaguement, en fait. Hein. Je l'ai vu très rapidement lors d'une soirée au Grand Rex à Paris, où il venait présenter Monty Python Sacré Graal, qui était donc ressorti au cinéma. Mais bon, c'était dans un cadre voilà, entouré de gens. Donc c'était pas le cadre idéal pour pouvoir lui parler de tout ça, puis j'étais au tout début de ma thèse, donc je savais même pas ce que j'allais dire, donc j'ai essayé de le rencontrer, puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais beaucoup beaucoup d'interviews de lui, et que la plupart des choses que j'avais besoin de savoir étaient déjà dites dans les interviews, donc ou que ce qui n'était pas dit dans les interviews, à mon avis, ne serait jamais dit, même par lui, s'il était en face de moi. Probablement, c'est des choses dont il n'a pas spécialement envie de parler ou qui n'intéressent pas forcément, puisque Guillaume, c'est pas quelqu'un non plus qui intellectualise son travail, en tout cas pas devant les journalistes et pas devant les intervieweurs. J'aurais beaucoup aimé le rencontrer. Je préférais le rencontrer maintenant, une fois que c'est fini, dans la mesure où c'est toujours un peu compliqué de s'attaquer à l'œuvre de quelqu'un qui est vivant, parce qu'on a toujours peur de pas être à la hauteur du travail de quelqu'un qu'on aime bien. On a toujours peur de dire des choses et que la personne vienne vous dire mais non, c'est n'importe quoi, vous racontez des conneries. Enfin, j'ai un petit peu freiné. J'aurais sans doute dû essayer de le rencontrer quand même. J'espère avoir l'occasion de le faire par la suite. Je me suis pas senti seul. Je me suis pas senti démuni complètement par rapport à son cinéma. Il y a beaucoup de ses techniciens aussi qui ont été interviewés, donc il y avait quand même pas mal de quoi faire sans même avoir à le rencontrer, quoi.
Et alors toutes ces recherches, elles intéressent qui concrètement?
Elles m'intéressent moi déjà. Ouais. C'est déjà ça le plus important. Terry Gilliam, c'est quelqu'un qui, depuis une quinzaine d'années, c'est quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un de pas intéressant en France, au niveau critique. Globalement, quand il y a un film de Terry Gilliam qui sort, aujourd'hui, plus personne ne fait attention à son cinéma. C'est vrai que pour moi, le travail universitaire, c'est aussi un moyen de réhabiliter un certain nombre de réalisateurs qui peuvent sembler être des réalisateurs de série B, de films de genre, de choses comme ça, pas intéressants, ou qui n'ont rien à dire. Terry Gilliam, je pense, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent à la fois dans ses opinions, puis dans son propos, dans sa manière de transmettre ses opinions par le biais du cinéma, et dans son rapport au cinéma, justement. Je trouve qu'il tient une ligne, une espèce de morale, de morale esthétique, qu'il a tenue depuis le début et qui tient encore aujourd'hui. Et ça, c'est suffisamment rare dans le cinéma, notamment dans le cinéma de divertissement, pour que je trouve que ça soit, je dirais pas encouragé, mais que ça soit mis en valeur et que ça soit écrit, justement. Et c'était l'occasion de me confronter à quelqu'un sur lequel, en France, en tout cas à ma connaissance, il n'y avait rien qui avait été écrit au niveau universitaire. Il y avait des maîtrises qui avaient été écrites lorsqu'il était animateur dans le Flying Circus, mais il n'y avait pas de thèse écrite sur Terry Gilliam et sur toute une partie de son œuvre, en essayant de prendre du champ et de prendre son œuvre dans sa globalité.
On écoute tout de suite Janice Graham Band avec le titre Murder.
Every day.
Le monde universitaire a parfois ce défaut de dire qui est le novateur et qui est ringard et qui est pas ringard. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Il y a des réalisateurs qui sont considérés comme des réalisateurs hyper importants, hyper intéressants sur le plan esthétique. Bon, moi, c'est des réalisateurs qui m'ennuient profondément. Là aussi, il y a la question du goût, toujours, hein, au cinéma comme en art. Hein, voilà. Donc, l'université, c'est l'occasion d'essayer de rendre objectif quelque chose de totalement subjectif, c'est-à-dire une opinion personnelle et un goût personnel. Le but du jeu n'était pas de vendre, de promouvoir Terry Gilliam. Par contre, le but du jeu était d'essayer de voir de quel bois ces films étaient faits, c'est-à-dire vraiment comment fonctionnent ces films, quelle est la mécanique de l'onirisme dans ces films, essayer de tout poser sur la table, voilà, comme démonter une machine pour essayer de voir comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça ne nous explique pas le plaisir que moi j'y prends. Je ne peux pas l'expliquer d'une manière mathématique. Par contre, je peux expliquer comment ça fonctionne.
Donc vous semblez très investi dans votre travail, ça fait plaisir.
Il faut toujours être investi parce que c'est long et ça peut être dur parfois. C'est vrai qu'il y a des moments de doute qui sont parfois difficiles. Donc c'est important d'être enthousiaste, c'est important d'avoir des gens autour de soi pour vous soutenir, même psychologiquement, c'est très 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 important.
Donc du coup maintenant vous avez soutenu votre thèse, par la suite vous aimeriez continuer dans le domaine du cinéma?
Si c'est possible, moi je sais que je retravaillerai bien sur les cinémas d'Asie qui est ma deuxième marotte, on va dire, avec le cinéma américain qui est un cinéma que je commence à connaître un petit peu, mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer à travailler surtout sur des réalisateurs qui me transportent, quoi, c'est-à-dire des gens où quand je vais voir un de leurs films, je sors et j'ai envie de me dire, mais là il y a plein de choses à dire, il y a un article à écrire là-dessus, sur tel aspect. Dans le cinéma sud-coréen, par exemple, il y a des jeunes réalisateurs de 40 ans, mais des jeunes réalisateurs qui ont 5-6 films à leur actif et qui sont, à mon avis, des gens qui sont en train de tout retourner en termes de cinéma et qui sont en train de ringardiser complètement le cinéma hollywoodien classique. Hein. Donc, le cinéma hollywoodien, notamment effets spéciaux tels qu'il se fait maintenant. Et je pense qu'il y a plein d'endroits où il se passe des choses. Aux États-Unis, il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses également de temps en temps en France. Hein. Il suffit d'aller voir un film comme L'exercice de l'État, dernièrement, qui est vraiment, moi je trouve, vraiment un film exceptionnel sur la politique française et voilà, qui n'a pas été si célébré que ça, alors qu'à mon avis c'est un des meilleurs films français qui soit sorti cette année. Mais même dans le dernier Kassovitz, il y a des choses intéressantes. Enfin voilà, moi c'est vrai que je sais que je travaillerai sur le cinéma, je ne sais pas trop sur quoi. Là, Gilliam, je vais le laisser reposer un petit peu pour l'instant, peut-être revenir dessus après avec notamment, j'aimerais bien écrire un petit peu plus sur Parnassus, parce que c'est un film que j'ai rajouté en dernier dans ma thèse, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de l'analyser comme les autres. Et j'aimerais bien le creuser un petit peu, parce que c'est un film qui a vraiment été très mal aimé quand il est sorti. Et c'est vraiment un film, à mon avis, qui est extrêmement intéressant sur Gilliam et qui est un film extrêmement personnel. Mais après, il y a d'autres auteurs sur lesquels je serais prêt à bosser sans aucun problème. Bon, les Hongkongais, les Sud-Coréens, certains Japonais. Voilà, il y a du. Bon, je trouve que chez Takeshi Kitano, par exemple, il y a toujours. Voilà, chaque film que je vois de lui me relance dans l'envie. J'ai déjà travaillé sur lui pour mon DEA. Voilà, je pense que mon DEA était vraiment une petite goutte d'eau, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les frères Cohen, il y a beaucoup de choses à dire sur un réalisateur comme Refn, qui a réalisé Drive récemment du côté des Britanniques. Et puis j'aime bien travailler sur le cinéma de genre aussi. Donc moi j'aime beaucoup, je regarde pas mal de films et j'aime beaucoup, là par exemple en Angleterre, il y a toute une espèce de vague de films fantastiques avec des petits budgets, de série B. Il y a des trucs vraiment très, très, très bien, quoi. Et bon, voilà, c'est des films qui sont pas célébrés, des films qui sortent pas en France au cinéma, et pourtant à mon avis des films sur lesquels je pense qu'il y aura matière à travailler dans les années qui viennent, donc je m'inquiète pas trop, je trouverai des sujets de toute façon. Après voilà, est-ce que je trouverai un travail, ça c'est une autre question. Trouver des sujets et conserver l'enthousiasme, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Devenir maître de conférence éventuellement, voilà, on verra bien dans les années qui viennent, on croise des doigts et puis on espère qu'il y aura un peu de place pour tout le monde, quoi, pour qu'on puisse s'investir un petit peu là-dedans. Mais c'est pas que moi, hein, c'est tous les étudiants.
Alors vous, de votre côté, est-ce que vous faites de la vidéo? Est-ce que vous réalisez des films?
Non, par contre, moi j'ai deux mains gauches, je suis très fort pour parler, par contre je suis pas fort du tout pour faire des films, ni pour en écrire. Donc je laisse le soin aux autres, beaucoup plus talentueux que moi, de le faire. Moi je me permets juste de commenter ce que j'aime. Je pense pas que je serai un très bon critique, parce que j'ai beaucoup de mal en dehors de mon cercle amical à dire du mal de films que j'ai pas. J'aurais du mal à écrire sur des films que j'aime pas, parce que je trouve que c'est quelque chose de dur de s'attaquer au travail de quelqu'un et de porter un jugement dessus. C'est un pas à franchir qui est assez complexe. Donc moi j'ai plutôt envie de travailler sur des choses que j'aime bien. Justement, c'est pour ça que j'ai un peu choisi cette voie universitaire, c'est que ça me permet d'écrire des trucs, des articles ou des livres, enfin, ou des mémoires donc plus consistants, et essayer de trouver des gens que j'aime bien, et puis essayer de faire partager mon amour pour ces cinéastes à d'autres gens. Bon, l'université et les mémoires, je ne me fais pas d'illusions, il n'y a pas 40 millions de personnes qui les lisent. Mais bon, après, par le biais d'articles, on peut essayer de toucher un peu plus de monde. Voilà. Et après, bah, par la suite, éventuellement, s'il y a des étudiants qui sont intéressés par Terry Gilliam, bon, bah, il y aura un moment, ils tomberont sur ma thèse et puis après, ils en feront ce qu'ils en voudront. Quoi.
Alors, vous disiez que Terry Gilliam n'était pas très reconnu en France. Est-ce qu'il existait des travaux de recherche sur lui avant que vous entamiez, vous, votre thèse?
Alors, j'ai trouvé des choses, notamment en Angleterre, aux États-Unis. En France, très peu. Je dois avoir chez moi un DEA qui est consacré à la question de l'intertextualité, en fait, dans les animations de Terry Gilliam, qui étaient des collages avec des images découpées, en fait. Donc, animées après image par image. C'est un texte qui est plutôt intéressant parce que, justement, c'est la base même de son art par la suite, c'est-à-dire cet art du collage, de mettre des tas de références culturelles les unes avec les autres. C'est complètement ce qu'il va refaire ensuite en film. Mais c'était vraiment sur le tout début de sa carrière. Et après, donc, dans ce travail universitaire, ça travaillait sur les premiers films, en fait, de Terry Gilliam, Jabberwocky et Bandit, je crois bien. Mais ça s'arrêtait, en fait, là où moi je commence. À Brésil. Donc c'est vrai que finalement, il n'y a pas eu de chevauchement entre les deux, ce qui, moi, personnellement, m'allait très bien aussi, hein, puisque le thème n'était pas le même non plus. Donc moi, je l'ai lu, je m'en suis un petit peu servi. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'étais assez libre après pour travailler. Mais moi, c'est ce que je cherchais aussi. C'est de ne pas avoir des grands noms qui auraient déjà tout dit 100 fois mieux que ce que je pourrais dire et de me retrouver à essayer de patiner derrière pour placer mon petit mot. Je préfère me planter et être le premier à dire le mot, justement, et, quitte à faire des erreurs, à ce qu'on me dise après que c'est que des bêtises. Et que, en fait, c'est pas du tout ça qu'il a voulu dire. Je préfère qu'on m'accuse de ça plutôt que courir après, hein, des grands noms, des gens très intelligents, très brillants. Il en faut, je pense qu'il faut de tout, quoi. Il faut justement des gens très brillants qui vont, voilà, dire des choses pour les 30 ans à venir. Et puis je pense que de temps en temps, il faut des défricheurs aussi. Moi, c'est plutôt comme ça que je me vois, c'est-à-dire on prend un sujet auquel personne s'est trop intéressé, on prend une serpe et puis voilà, on commence à couper, puis on voit s'il y a un chemin qui se dégage ou s'il y a rien du tout qui arrive, quoi. Enfin, c'est un peu risqué peut-être comme opération, mais moi c'est ce qui m'intéresse. Donc et la fac m'a laissé le faire. Donc j'ai poursuivi dans cette voie-là sans aucun scrupule.
Est-ce qu'il est un peu plus connu aux États-Unis ?
Oui, parce qu'en fait, Gilliam, il y a toute une posture en plus. Donc, chez Gilliam, quand il est en public, Gilliam, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec l'industrie hollywoodienne. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas connu du grand public. Par contre, c'est quelqu'un qui a une image très très forte de rebelle dans les milieux cinéphiles. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un rebelle. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans le système. C'est pas quelqu'un du tout qui travaille en dehors du système. Il y a aucun moment où il travaille en dehors du système. Mais par contre, la manière qu'il a de travailler dans le système et d'essayer de cette manière qu'il a de s'affronter notamment au système, hein, puisque Brésil, le Baron de Munchausen, les frères Grimm, enfin tout ça, c'est des films qui ont été extrêmement problématiques sur le plan de la production. Même Parnassus, hein, l'imaginarium du docteur Parnassus avec la mort en plein milieu du tournage d'Heath Ledger. Normalement, ça, dans n'importe quel film, le film il s'arrête tout de suite, quoi. Et c'est terminé, quoi. Enfin, et voilà. Et on remballe les affaires et on s'en va, quoi. Et ben lui, il a quand même continué son film. Enfin, il y a une espèce de ténacité qui est quelque chose. Voilà, quand on est cinéphile, Gilliam, c'est une espèce de héros, quoi, quelque part, quoi. Voilà, c'est une espèce de héros qui nous prouve à la fois qu'on peut faire du cinéma dans le système et contre le système en même temps. Ça, c'est déjà ça. Et en plus, c'est quelqu'un qui prouve qu'avec de la ténacité, on peut finir par arriver à terminer ses projets, même si on est insatisfait, même si... et ça, c'est vrai, par exemple, c'est bête, mais quand on fait une thèse et qu'on a du mal à la terminer, c'est un exemple assez encourageant, même si c'est pas le même travail, hein, voilà, entre un travail artistique et un travail universitaire, mais c'est quelque chose d'assez encourageant, c'est-à-dire de se lancer dans une entreprise, de pas être sûr d'être capable de la terminer, et bah, finalement, de trouver les ressources en soi, même parfois dans des conditions... parfois assez extrême, de trouver les ressources qui permettent d'achever ce qu'on avait commencé, d'achever le projet qu'on avait commencé au départ, envers et contre, pas envers et contre tout forcément, mais malgré tout, voilà, malgré les problèmes qui peuvent se poser, quels qu'ils soient, quoi. Et ça, c'est pour ça que Gilliam, il a même en France, hein, il a aussi Dupontel, par exemple, Albert Dupontel est un grand fan de Terry Gilliam, qu'il fait jouer dans ses films assez régulièrement comme figurant. Voilà, il y a Terry Gilliam, il y a une revue de cinéma qui s'appelait Brésil, qui était, voilà, là aussi, ce qui était dédié à Terry Gilliam, hein, directement, avec... Et c'est vrai que voilà, Gilliam, c'est toujours la promesse d'un cinéma différent. Et ça, c'est, on sait que Gilliam, il peut pas totalement réussir ses films, mais on sait que ça ressemblera jamais à un film hollywoodien à effets spéciaux à 100 millions de dollars. On sait que ça ressemblera jamais à ça, ça ressemblera toujours à du Gilliam. Et ça, c'est quelque chose aussi, voilà, qui est, je pense, assez apprécié de la part des cinéphiles. Mais par contre, au niveau du grand public, à mon avis, il est pas tellement plus connu aux États-Unis qu'en France. Hein, je pense pas. Je pense qu'il a été connu avec Brésil, parce que Brésil et Munchausen ont fait quand même du bruit. Après, je pense qu'il a relativement mal distribué, notamment aux États-Unis. Hein, je pense au cinéma, dans les salles.
Pour les auditeurs qui n'ont jamais vu un film de Terry Gilliam, est-ce que vous en avez un en particulier à conseiller ?
En Brésil. Brésil. Il faut commencer par Brésil, parce que Brésil, c'était son manifeste punk. Dans Brésil, il y a toute sa détestation de l'autorité, de l'ordre, des flics, de l'administration, du totalitarisme. C'est un film d'anarchiste, Brésil. Hein, c'est un film sur, justement, il y a tout un discours sur le terrorisme et sur comment est-ce qu'on crée du terrorisme dans une société pour foutre la trouille aux gens. Et le film date de 85. Le 11 septembre 2001, les choses se sont révélées. Ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001 aux États-Unis avec le Patriot Act, c'est exactement ce qui se passe dans Brésil, quoi. Je veux dire, on maintient la peur des gens, et ce qui va se passer là dans 6 mois pendant les élections présidentielles, où on va nous dégorger du fait divers en veux-tu en voilà pour nous foutre la trouille, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une métaphore, ça se passe dans un monde parallèle, c'est pas notre société, c'est une espèce de société mi-futuriste, mi-années 30, mais ça dit tout. À mon avis, c'est un film qui est extrêmement prophétique, à la fois sur les années 80, mais sur les années 2000. Et je pense que c'est un film qui reste toujours aussi moderne et fort aujourd'hui. Et puis en plus, sur la forme dramatique, j'en dis pas plus, parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau dramatique dans ce film-là. Et voilà, c'est à mon avis un des films les plus bluffants qui a été réalisé dans les années 80, et un des films les plus rentre-dedans qui a pu être fait. Mais après, Munchausen, si vous avez des enfants, il faut absolument que vos enfants voient Munchausen vers 9-10 ans. C'est un film qui fait peur de temps en temps, mais c'est un film qui est extrêmement bon pour la santé mentale des enfants. Et sinon, L'Armée des 12 singes, quoi, qui est son film le plus hollywoodien, c'est peut-être le plus accessible, mais avec un Bruce Willis qui probablement n'a jamais été aussi bon que dans ce film-là. Donc c'est mon trio de tête. Après, je pourrais aussi défendre n'importe lequel des autres. Maintenant, je suis tombé dedans, donc c'est vrai que j'ai du mal à comparer les films de Gilliam, mais voilà, je commencerai par Brésil.
J'ai regardé mon premier film de Terry Gilliam hier, vu que j'allais vous interviewer, et donc j'ai regardé L'Armée des 12 singes, et effectivement ça m'a bien plu. Donc je pense que je vais continuer.
Il faut. Surtout qu'il n'a pas fini, il est encore vivant, et il y a encore des projets, donc il faut en profiter tant qu'il est vivant, parce que c'est pas si courant que ça d'avoir des réalisateurs qui ont encore quelque chose à dire et quelque chose à donner.
D'accord. Et est-ce qu'il travaille actuellement sur un film, vous savez, non ?
Aux dernières nouvelles, là, il avait repris son projet de Don Quichotte qu'il avait déjà abandonné. Le premier échec de ce projet avait été montré dans un documentaire qui s'appelait Lost in La Mancha, et qui est justement aussi un documentaire très intéressant sur Gilliam cinéaste, et justement sa façon de réaliser, sa technique de travail, justement, et sa technique de travail qui le mène à l'échec. Enfin, c'est assez intéressant. Donc il aurait repris le tournage, mais alors là, c'est toujours pareil avec Gilliam, on entend parler de plein de choses, et puis il faut parfois attendre 2-3 ans avant qu'il y ait quelque chose qui sorte. Donc là, il a réalisé quelques courts-métrages, donc ça veut dire qu'il n'a pas abandonné la caméra, et donc normalement, le prochain film, ça devrait être Don Quichotte, hein, normalement.
D'accord, et merci beaucoup.
Ouais, pas de problème.
Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous ceux des anciennes émissions du Labomatique sur le site de Radio Campus Rennes au www.radiocampusrennes.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique. Thank you.